Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, enfiler nos chapkas et pousser les classiques sur un traîneau à travers la steppe subarctique. Et s'ils s'opposent, eh ben quoi? Eh ben le goulag. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui joue les poutines littéraires. En quand même plus sympa, ce qui n'est pas difficile. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai mon armée rouge à moi. Celle que l'on surnomme la louve de la toundra, dont la blondeur polaire dissimule une prédatrice connue jusqu'aux confins de l'Oural. Bonjour, Elodishka Emeyerski de son vrai nom, Elodie Emery.
Bonjour Clara Dupont-Mono.
Celle
j'ai fait un loup.
J'ai compris. La louve. Avec vous, Elodie, celle que l'on surnomme le castor de la taïga, qui grignote les hommes comme le castor l'écorce de saule. Bonjour, Lilianova Rudirovitch, dit Liliane Roudière.
Bonjour Clara.
Et enfin, celle que l'on surnomme la loutre à la chapka, dont le poil est imperméable et au froid et aux attaques. Bonjour, Cécile Yoy Kulonechka, dit Cécile Coulon.
Mais comment savez-vous tout ça, Clara?
Je le sais, je le sais. Le classique que nous allons arroser de vodka ce dimanche, vous allez devoir le deviner, amis auditeurs, à la façon de questions pour un champion qui a eu des candidats russes, exemple en 2012.
Anna, à côté de vous, c'est la Russie. Regardez le sourire d'Anna, la Russie.
La Russie, ah, je sais, Julien Lepers. Alors attention, chers auditeurs, êtes-vous prêts à deviner le classique littéraire que nous allons transformer en bœuf Strogoff? C'est parti. Je suis publiée en 1983. Mon auteur a 83 ans, c'est une femme. Et c'est donc au soir de sa vie qu'elle évoque son enfance écartelée entre la France et la Russie. En France, elle est avec son père, en Russie avec sa mère. Les deux ex se mettent sur la figure, la petite fille tient, tant bien que mal. Les choses se compliquent quand son père se remarie et qu'il se reproduit. Voici ma petite narratrice, encore plus mise à l'écart, au profit d'une nouvelle petite sœur. Mon histoire se construit au gré de souvenirs qui défilent tels des diapositives. L'adieu sur un quai de gare, l'odeur d'une izba, l'appartement de Saint-Pétersbourg, celle de l'appartement parisien, ou bien une émotion, un doute, un silence, une phrase. La mémoire est mon personnage principal, la mémoire floue, magma de sensations, d'intuitions qui cherche à formuler le souvenir. Et pour cela, il y a un double. Oui, mon auteur invente son double qui intervient régulièrement dans le récit et qui traque l'embellissement de la mémoire, qui dit « mais non, mais ça s'est pas passé comme ça », qui gronde parfois l'auteur et qui souvent l'aide à trouver les mots, la mise en langage. Il y a donc la voix de la narratrice. Et puis ce double lucide, intransigeant, compagnon de route d'une enfant qui apprend à dire « je » plutôt que « moi ». Je suis... Dans Enfance de Nathalie Sarraute.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
Le sais-tu, comme on dit dans Astrapi, le sais-tu. Nathalie Sarraute est née près de Moscou en 1900, donc elle a toujours parlé le russe comme le français. Elle sera très connue pour un livre nommé Tropisme, alors je sais qu'on dirait une maladie de peau. On en parlera tout à l'heure parce que je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire exactement. En tout cas, elle a été très proche de ce qu'on appelle le nouveau roman, qui, en gros, mettait par terre toutes les règles du roman. Par exemple, Sarraute préférait écrire le silence plutôt que les grandes aventures, les non-dits, l'hésitation avant une phrase et non pas la phrase elle-même, les sous-conversations. Précisons qu'elle n'était pas du tout friande de psychanalyse, elle disait en savoir bien assez sur elle-même. Pour nous accompagner à travers cette steppe littéraire, nous accueillons aujourd'hui Christine Montalbetti. Bonjour Christine.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en littérature à l'Université Paris 8. Vous êtes aussi l'auteur de pièces de théâtre et de romans. Le dernier est paru en cette rentrée. Il porte un titre, alors là, très sarrautien, « Ce que c'est qu'une existence », paru chez POL. Et vous aimez Nathalie Sarraute comme les enjolures aiment le climat sibérien avec passion. Alors Christine, pourquoi Nathalie Sarraute a-t-elle appelé son livre « Enfance » et non pas « Une enfance » ou « Mon enfance » ?
Je pense que « Mon enfance » aurait été trop possessif, qu'on aurait eu une sensation aussi d'une chose fermée, définie. « Une enfance » aurait plus été une enfance parmi d'autres, ça aurait été un peu plus ouvert, mais quand même défini. Tandis qu'enfance seule, comme ça, c'est le mot, Elle envoie le mot comme ça, enfance.
Comme une page blanche en fait.
Oui, ou comme voilà, comme toutes les vibrations qui peuvent être contenues dans enfance et qui font que, en lisant le titre, on peut songer à nos propres enfances.
Est-ce que vous nous liriez, Christine, le passage que vous avez préféré dans Enfance de Nathalie Sarraute?
Oui, alors c'est un moment dans lequel la petite fille est dans le jardin du Luxembourg et on vient de lui lire une page d'un conte d'Andersen. Je regardais les espaliers en fleurs le long du petit mur de briques roses, les arbres fleuris, la pelouse d'un vert étincelant, jonchée de pâquerettes, de pétales blancs et roses. Le ciel, bien sûr, était bleu et l'air semblait vibrer légèrement. Et à ce moment-là, c'est venu quelque chose d'unique qui ne reviendra plus jamais de cette façon. Une sensation d'une telle violence qu'encore maintenant, après tant de temps écoulé, quand amoindrie, en partie effacée, elle me revient. J'éprouve, mais quoi? Quel mot peut s'en saisir? Pas le mot à tout dire, bonheur, qui se présente le premier, non, pas lui. Félicité, exaltation sont trop laids, qu'il n'y touche pas. Et extase, comme devant ce mot, ce qui est là se rétracte. Joie, oui, peut-être. Ce petit mot modeste, tout simple, peut effleurer sans grand danger. Mais il n'est pas capable de recueillir ce qui m'emplit, me déborde, s'épand, va se perdre, se fondre dans les briques roses, les espaliers en fleurs, la pelouse, les pétales roses et blancs, l'air qui vibre, parcouru de tremblements à peine perceptibles, d'ondes, des ondes de vie tout court. Quel autre mot ?
Oh, que c'est beau. Moi, j'ai de la joie à lire ça, à entendre ça. Est-ce que je suis la seule autour de cette table ? Cécile Coulon, je sens que pas du tout.
Non, non, mais en fait, quand je vous entends lire ce passage, Christine, je me dis, est-ce que ce livre-là, il faut peut-être l'entendre, lu, plutôt que de le lire ? Parce que moi, j'ai découvert Sarraute par Tropisme, qui est un livre que j'ai adoré. Ça a été une révélation, une épiphanie, on appelle ça comme on veut. Mais Tropisme, pour moi, était un grand livre et aussi un grand, comment dire, une grande leçon d'écriture. Et Enfance, derrière, m'a paru très très long et très laborieux d'une certaine manière. Je ne sais pas si j'ai aimé ou pas aimé. Je me suis dit qu'il y a des passages qui sont pour moi des fulgurances et d'autres sur lesquels, en le lisant, je bute énormément. Et après, je me dis peut-être que c'est aussi le principe de ce texte-là, puisqu'on parle de l'enfance, ce n'est pas d'une enfance, mais de l'enfance. Et peut-être que ce livre, il faut l'entendre.
Liliane Roudière.
Moi, j'ai beaucoup aimé, et je pense, grâce à la générosité aussi de ce titre, Enfance, et du mode opératoire, avec ces deux voix qui se répondent. Et peut-être que moi, j'ai l'âge de pouvoir apprécier ça, parce que j'ai pas l'âge de la dame quand elle l'a écrit, 83 ans, quand même pas, mais... Je me suis dit, c'est comme ça, tiens, mes souvenirs d'enfance, c'est comme ça qu'il faudrait les traiter. Alors, j'ai aimé le fond et j'ai aimé la forme. Et je me suis dit, c'est peut-être un guide pour soi-même, faire sa propre exploration.
Élodie Emery.
Ah bah moi, quelqu'un qui s'invente un double pour faire de l'autodérision plus efficacement, alors je suis plus que séduite. Je suis conquise par cette idée de génie. Et vous, Clara, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Eh bah moi, j'adore. J'adore ce livre parce que c'est un refus à lui seul, parce qu'il refuse les belles phrases, le beau style. Il refuse aussi le principe de l'intrigue, hein, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de tension, il n'y a pas beaucoup de points. C'est un livre en point de suspension. Et j'aime beaucoup parce qu'on lit la recherche de la mise en forme du souvenir autant que le souvenir lui-même. Et donc pour moi, c'est une écriture de suspension, c'est donc une écriture de ballerine en quelque sorte, hein, et tout ce qui vient de la danse classique, comment pourrait-on ne pas aimer ?
C'est joli ça,
mais
une
c'est
écriture
vrai.
De ballerine.
C'est une écriture de
ouais.
ballerine. Et on va en avoir d'ailleurs un exemple criant avec la première phrase de Enfance. Vous allez l'entendre à nouveau. Élodie Emery nous dépiote la première phrase de Enfance de Nathalie Sarraute.
Oui, alors je vais commencer par lire l'incipit.
Allez-y.
Car on dit incipit.
Incipit.
Alors tu vas vraiment faire ça ? Évoquer tes souvenirs d'enfance ? Comme ces mots te gênent, tu ne les aimes pas. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs. Il n'y a pas à tortiller. C'est bien ça. Ok, c'est bon. Intervention. Nathalie Sarraute, je me présente. Je suis chef de la brigade de la sororité. L'individu à qui tu viens de partager ton projet de livre est un pervers narcissique de catégorie 3. Je dresse le procès-verbal de l'incipit de ce texte. Il est sans appel. Cette personne se fout de ta gueule. Si, Nathalie, je suis désolée. Il se fout de ta gueule. On ne commence pas un livre en disant « Alors, tu vas vraiment faire ça ?» De toute évidence, tu vas l'écrire le livre puisqu'on le tient entre nos mains. CQFD. Et bien sûr que tu vas le faire. Bien sûr que tu vas le faire, Nathalie. N'écoute pas. Cet individu toxique, je dis « il », oui. Parce que, évidemment, c'est un homme hein, qui te dit « Alors, tu vas vraiment faire ça ?» Avec ce petit ton insolent. Il est là, avec les jambes écartées. Il tire sur sa vapeur. Je suis sûre qu'il vapote. Il est jaloux, Nathalie. C'est super d'évoquer ses souvenirs d'enfance. Tu vas déchirer. Alors maintenant, tu te lèves et tu te casses. Ah, on me fait signe que la phrase a une suite. Qui laisserait entendre que l'individu toxique en question te connaît très très bien. Voire qu'il s'agirait de toi. Alors, ok Nathalie, alors je ne suis pas formée à intervenir sur les violences sexistes contre soi-même, parce que là, si je comprends bien, tu parles toute seule en fait. Tu fais les questions et les réponses, comme moi quand je suis dans ma salle de bain et que j'imagine que je réponds aux questions de Michel Drucker. D'accord. Autant pour moi, Christine Montalbetti, pourquoi Nathalie Sarraute se moque-t-elle si cruellement d'elle-même? Est-ce que c'est le projet de raconter son enfance qui est scandaleux ou impudique?
Je crois qu'il y a une vraie gêne par rapport à ce projet. En fait, c'est très intéressant ce dialogue, parce que quand le livre est sorti, les lecteurs et les critiques se sont posé la question de savoir qui était en jeu, effectivement, dans ce dialogue.
Et Christine Montalbetti, la critique a dit de Nathalie Sarraute, je la cite, c'est André Clavel dans Lire, « Sarraute, c'est d'abord un mythe, la petite soubrette fuyant sa Volga natale pour devenir la tsarine du nouveau roman. » Alors c'est quoi exactement le nouveau roman ?
Le nouveau roman, c'est surtout une opération de com qui est beaucoup passée par une photo qui avait été prise devant les éditions de Minuit, sur laquelle on voit Sarraute, qui n'a publié aux éditions de Minuit que Tropisme, qui a été repris par les éditions de Minuit, Beckett, Pinget, Claude Simon, Claude Ollier, il manque Duras, et oui, il y a Rob Grillet aussi. Ce qui est vrai, c'est que ça réunissait des auteurs qui étaient tous des auteurs qui cherchaient à s'opposer, disons, à un certain roman classique. Et Rob Grillet parlait beaucoup de Balzac, en fait, comme vraiment l'auteur contre lequel il écrivait. Alors que,
ah oui, Balzac bon, démission, quoi.
Balzac qui représentait, enfin, Sarraute a beaucoup fait l'éloge de Balzac aussi, mais pour dire que voilà, que c'était une manière de faire qui était ancienne et que voilà, c'était des auteurs qui essayaient d'écrire contre un romanesque traditionnel, mais en même temps chacun avec ses moyens, chacun avec ses désirs, et ce sont des auteurs qui sont en réalité très différents, et Sarraute l'a beaucoup dit ça aussi, qu'elle se sentait pas du tout comme une partie d'une école, mais que voilà, qu'elle poursuivait son propre chemin.
Cécile Coulon.
Oui, moi je me demandais, selon vous, pourquoi Nathalie Sarraute, elle a attendu d'avoir 83 ans pour écrire Enfance?
Ben vous verrez, Cécile, je pense que vous écrirez Enfance.
J'ai peur de ne pas atteindre 83 ans.
Dans un moment,
ans,
c'est vrai, vous êtes déjà...
Je ne sais pas. Non, non, mais
je ne vous sens pas tout à fait prête à le faire. Je crois qu'il y avait quelque chose, ce qui explique aussi ce début et cette mise en scène de l'hésitation, en fait. Tu ne vas pas faire ça ici. Et,
oui, parce qu'après, la voix dit peut-être que tes forces déclinent.
Oui.
Et elle répond, non, je ne crois pas, je ne le sens pas.
Ouais. Effectivement, il peut y avoir quelque chose du regard rétrospectif, qui a besoin du temps qui passe pour avoir envie de retravailler l'enfance. Il y a aussi le fait que comme l'enfance est lointaine, alors elle est dans la brume, ça scintille un peu, et que Sarraute aime ce qui est flou à partir du moment où ça va devenir clair. Enfin, à la fin du roman, elle le dit, quand elle arrive dans un temps qui est clair, alors ça n'est plus un temps qui l'intéresse dans l'écriture. Et puis, il y a aussi un petit scandale à parler de sa vie quand on est un nouveau romancier. Rob Grillet aussi va y aller d'une autre façon avec Le miroir qui revient. Mais je pense qu'il y a une vraie gêne, parce que c'est aussi une gêne esthétique.
Et comment est-ce que Enfance, du coup, a été accueillie à sa sortie ?
Et je crois que ce qui a beaucoup frappé dans Enfance, c'est justement cette structure du dialogue et cette mise en question et la question de savoir à qui parlait à qui dans ce début, et cet interlocuteur revient, corrige parfois encourage aussi, hein, il est pas seulement...
C'est vrai.
Et y compris aussi quand il essaye de la dissuader au début, elle dit que c'est aussi ça, c'est le fait qu'on essaye de la dissuader qui fait qu'elle a envie d'y aller.
Lorsque nous étions encore enfants, sur le chemin de Bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Le dimanche pour aller danser, on mettait tous nos souliers dans le mer. panier et pour pas les abîmer, on allait au bal à pied. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Ça compliquait bien un peu la vie. Trois garçons pour quatre filles. On était tous amoureux, toi de moi et moi de lui. L'une hier, l'autre aujourd'hui. Anton, Yvon, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main. On a quitté les copains. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, c'est à peine s'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi.
Marie Laforêt, Yvon, Boris et moi.
France Inter. Livre et châtiment.
Vous n'avez pas voulu qualifier cette enfance ou la personnaliser dès le titre?
Parce que je pense qu'elle était assez particulière, peut-être davantage que beaucoup d'enfance, par les circonstances même de la séparation de mes parents, des deux pays dans lesquels ils vivaient et entre lesquels j'ai été ballottée pendant un certain temps. Par conséquent, elle ne ressemblait pas à toutes les enfances, mais j'espérais que j'arriverais à montrer dedans ce qui est commun à toutes les enfances, à toutes les impressions d'enfance. Et ça me fait plaisir de voir des gens qui me disent « Oh ben, ça m'a fait retrouver des choses de mon enfance. »
Non, on ne se lasse pas de cette voix, celle de Nathalie Sarraute en 1989. Vous écoutez Livre et Châtiment sur Inter, Livre et Châtiment qui fait son Yvan le Terrible avec Enfance de Nathalie Sarraute. Et pour briser la glace, je suis aidée de mes babouchkas et de notre invitée Christine Montalbetti. Alors Christine, on vous l'a peut-être déjà dit, vous avez un très joli prénom. Oui, mais non, il faut le dire.
Ah, vous trouvez? Parce que moi, j'aime beaucoup mon nom de famille, mais j'aime pas beaucoup mon prénom. C'est...
Non, alors, en plus, les deux, il y a un petit côté comtesse. Par ailleurs, je ne suis pas insensible. Mais figurez-vous que Christine est très jolie. Nathalie aussi est jolie.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie.
Nathalie de Gilbert Bécaud, obligée quand on lit Nathalie Sarraute, enfance. Mais comme quoi un prénom ça inspire, hein, et ça, ce n'est pas Élodie Emery que je l'apprends, car elle a lu Enfance de Nathalie Sarraute au prisme des prénoms. C'est à vous Élodie.
Oui, il me semble Clara que depuis le début de cette émission, nous passons à côté de ce qui relève du scoop retentissant. Dans ce livre, Nathalie Sarraute est appelée Nathalie, c'est le prénom qu'elle écrit sur ses cahiers d'écolière, c'est comme ça que l'appelle l'institutrice, qui lui dit « Mais Nathalie, que t'est-il encore arrivé avec ce verbe apercevoir ?» Jusqu'ici tout va bien, Nathalie s'appelle Nathalie et on l'appelle Nathalie, sauf qu'on l'appelle aussi Natacha. Je cite « Quand je pense que je suis restée enfermée ici avec Natacha pendant tout ce temps sans que personne ne songe à me remplacer auprès d'elle. » Alors, il ne s'agit certainement pas d'une erreur puisque c'est sa mère qui parle. Alors, je veux bien qu'elle soit un peu éthérée, un peu distante, voire un peu abandonniste. N'empêche qu'elle est quand même bien placée pour connaître le prénom de sa fille. Et ce n'est pas non plus une coquille puisque Nathalie est appelée Natacha à 5 autres reprises dans le texte. Alors, j'ai enquêté. Car je suis journaliste de métier, j'ai la passion de l'info. On parle d'une investigation assez poussée, puisque j'ai tapé Nathalie et Natacha dans Google. Et là, accrochez vos ceintures, c'est le même prénom.
Oh, dame Ned !
C'est le même prénom. Je cite Wikipédia, le prénom Nathalie est très porté en Russie. Grosse enquête, oui. Natacha est son diminutif. Alors là, pardonnez-moi, je partage une anecdote personnelle, car Natacha est mon deuxième prénom. Donc déjà, un, ça me fait un choc d'apprendre que c'est un diminutif. un vulgaire dérivé de Nathalie. Mais ce n'est pas tout. Ma mère s'appelle Nathalie. Ma mère, qui n'a jamais su me donner d'explication crédible au sujet de ce choix de Natacha, nous qui n'avons aucune acquaintance russe, ma mère m'a tout simplement donné un dérivé, un succès d'année de son propre prénom. Sur ce, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec ma psychanalyste.
Merci Élodie Emery. Christine Montalbetti, elle en parlait, Élodie, la mère de Natacha, Nathalie. Elle est égocentrée, elle est sensible, elle est dure cette mère, non ? Comment vous la trouvez, la mère d'enfance de Nathalie Sarraute ?
Et je trouve qu'il y a une vraie ambiguïté des relations et de la manière dont ça se passe, parce que la petite Sarraute aussi est prise dans... Enfin, il y a toute une succession de scènes comme ça qui sont très... par exemple, la scène de la poupée où Sarraute voit une poupée qu'elle trouve plus belle que sa mère et elle est troublée par ça. C'est une peine qu'elle éprouve et du coup, elle pense que si elle la confie à sa mère va la consoler. Et donc, elle lui dit que la poupée est plus belle qu'elle et bien sûr, ça n'engendre pas la consolation, mais une vexation très forte. Et il y a plusieurs scènes de malentendus comme ça dans le roman et en fait, chaque fois, la mère enferme la petite fille dans une phrase. Et ça, c'est une chose qui hante Sarraute, la question du langage qui enferme, la question de la phrase qui blesse, qui violente, qui empêche de manifester la complexité des choses.
En vous écoutant, je prends conscience que la narratrice, donc Nathalie Sarraute, c'est plus les phrases comme ça qui lui font mal que l'abandon lui-même. Parce qu'à un moment, il est question que la petite reparte en Russie auprès de sa mère. Et finalement, la mère ne la reprend pas. Et d'ailleurs, Sarraute fait le choix de rester en France avec son père. Mais il y a quand même cette mère qui ne manifeste pas un intérêt complètement fou pour sa fille. Et en fait, ça la blesse moins que ce genre de phrase de sa mère. Donc en fait, la phrase blesse plus que le fait lui-même.
En tout cas, c'est ce sur quoi Sarraute insiste et c'est ça qui l'intéresse et qui l'intéresse dans toute son œuvre en fait. Cette question-là des phrases qui blessent, des phrases qui transforment celui qui les dit, qui transforment celui qui l'entend, qui peut transformer l'objet dont on parle. En fait, toute cette puissance-là hostile en fait, maléfique de certaines phrases. Et tout son travail, elle, va justement être de faire trembler les phrases, de faire trembler les objets dont elle parle, de faire ces points de suspension comme ça, qui sont aussi une manière de laisser vibrer les choses dans un drôle de silence qui est aussi la place du lecteur.
Et alors pour ceux qui n'auraient pas lu Enfance et qui nous écoutent, comment est-ce qu'elle fait pour se défendre contre cette douleur, la petite Sarraute ?
Je crois qu'elle est très troublée et puis qu'elle va inventer sa propre manière justement de d'écrire et son propre rapport au langage.
Donc c'est l'écriture. Les livres.
Voilà. Et elle en parle d'ailleurs aussi dans le roman de son rapport à l'écriture. Et pour revenir un peu à l'opposition tout à l'heure entre Enfance et Tropisme et la manière dont Cécile disait qu'elle avait adoré Tropisme et qu'elle était plus réticente devant Enfance. Et j'ai l'impression que pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'auraient pas lu Sarraute, en fait, il y a plusieurs manières d'y entrer. Enfin, il y a au moins deux manières d'entrer, peut-être trois. Pour celles et ceux qui aiment bien les expériences limites, alors là, oui, il faut commencer par Tropisme, parce que c'est une espèce de petite bombe littéraire. Voilà, c'est un objet, c'est un ovni, c'est vraiment une expérience extrême. Et voilà, pour ceux qui aiment ça, c'est une belle manière d'y entrer. Entrer par Enfance, c'est une entrée plus douce, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de plus classique aussi dans ce récit d'enfance, à la fois parce que ça parle d'enfance, que l'objet est peut-être plus net que dans d'autres romans, et aussi... voilà, parce que ça convoque. Donc ça, c'est une manière douce, peut-être, de découvrir l'œuvre de Sarraute, de commencer par Enfance. Et puis, pour y avoir une troisième manière, qui est moi la manière dont j'aime bien lire, qui est d'ouvrir comme ça, par exemple, Vous les entendez, qui est une conversation nocturne, quand les enfants sont couchés, entre deux amis, et de lire simplement deux pages, parce que quand on lit comme on veut, il n'y a aucune obligation à lire de la première phrase à la dernière, et de les faire résonner en soi, justement. Et je trouve que l'écriture de Sarraute, elle permet particulièrement ça, justement, avec cette vibration comme ça qu'elle fait entendre dans ses phrases.
Liliane Rodière, vous aviez justement une question qui tâche un peu.
Oui, parce qu'elle a écrit ce premier livre qui s'appelle Tropisme. On en parle un petit peu entre nous depuis tout à l'heure. Christine Montabelti, qu'est-ce que c'est un tropisme ?
Alors un tropisme, c'est toutes ces choses non dite, inconsciente, subliminale, comme ça. C'est l'avant de la conversation, en fait. C'est tout ce qui nous agite et qui n'est pas immédiatement de l'ordre du langage. À la recherche de quoi son écriture va justement partir, mais de cette manière flottante, incertaine, dont c'est trop, donc, ce qui est la seule manière d'essayer d'approcher ces tropismes. En fait.
Mais c'est la définition originelle ou c'est Sarraute qui lui a donné cette définition-là ?
Non, enfin, je pense qu'elle a, elle s'est un peu accaparée le terme en proposant ce texte.
Qui, oui, au départ, est une réaction chimique. C'est comme la résilience, au départ, c'est une résilience.
Parce que du coup, je l'ai tapé dans Google, comme je fais de l'enquête.
c'est une réaction d'orientation, de locomotion, occasionnée par des agents physiques extérieurs. Donc ça veut dire que, voilà...
C'est un penchant, en fait.
Voilà, ces phrases comme ça peuvent...
C'est un penchant. Livre et châtiment, un tropisme pour les classiques littéraires.
Voilà.
C'est des choses qui travaillent à l'intérieur de soi et qui sont en deçà du langage et... Du coup, sa phrase va essayer de partir en quête d'essayer d'approcher ça, de prendre ça dans leur filet, mais qui sont toujours des filets souples avec des mailles ouvertes, en fait.
Alors, Christine Montalbetti, elle est donc russe, hein, Nathalie Sarraute, en tout cas une partie d'elle. Et la Russie, elle a ceci de spécifique qu'elle écarte les opposants. Hein, état d'esprit ouvert et plaisant, et qui est pourtant celui de Cécile Coulon, puisqu'elle nous expose les passages qu'on peut sauter dans Enfance de Nathalie Sarraute. Armez-vous, Christine. C'est un peu dur, mais d'ailleurs, c'est drôle.
Je vous présente mes excuses d'avance. Non, mais alors, comme on dit à la gare de Clermont-Ferrand,
ça commence très bien.
J'ai connu des retards de train qui étaient moins longs que le livre, mais je ne vais pas être de mauvaise foi, solidarité avec les oies à l'approche de Noël, car j'ai bien compris que cette longueur et que cette langueur, c'est aussi le but du livre, ne pas plonger dans l'enfance, mais d'abord tremper les pieds pour prendre la température et pour savourer. Sauf que moi, à la piscine municipale, vous voyez, je suis plutôt du genre à faire la bombe humaine. Cette blague est un peu téléphonée. Plutôt qu'utiliser la petite échelle où il y a toujours des guêpes, de l'urine et des champignons. Bref, tout pareil que le bois de Vincennes. Donc, il m'a fallu du temps pour comprendre ce rythme si particulier, un peu comme si un matin, Étienne Daho avait la flemme d'enregistrer un album, mais qui est quand même emballant. Donc chez Nathalie Sarraute, les souvenirs d'enfance sont morcelés, découpés, brumeux, et tout à coup très précis et tranchants. Qu'on se le dise, un souvenir d'enfance de Nathalie Sarraute ressemble littéralement au souvenir qu'un enfant de 6 ans fait de sa journée à la piscine. Alors, il y avait deux, après c'était tout blanc, et la piscine toute bleue, et elle bougeait, et après on s'est mis sur le bord, et il faisait froid, mais pas vraiment froid. Et puis soudain, les garçons, dans l'eau, ils ont fait des cercles, ils criaient, et tout, et moi... Bon bref, vous avez compris le concept. C'est donc une formidable mise en abîme, d'une douceur et d'une discrétion infinie. Mais s'il y a pour moi un passage ou des passages qui sont plus compliqués que les autres, c'est ce dialogue. Avec ce double qui est inquiet, âgé, moqueur, ce double qui passe des pages entières à lui conseiller de raconter ou de ne pas raconter tel ou tel souvenir, ce double qui dans la vraie vie serait ce genre de meilleur ami un peu sociopathe qui veut vous garder pour elle toute seule et qui vous propose de jouer au docteur avec des barreaux de chaise, des pinces à tétons, bref, en gros un double un peu maléfique, troublant et troublé, un double qui met en garde le Sam des pubs des années 2000, tu es sûr que tu vas prendre la voiture après avoir bu ? Tu es sûr que tu vas coucher avec un type qui porte des t-shirts col en V et du gel fixation extrême ? Voilà, c'est ça l'autre voix d'enfance avec la très belle écriture de l'autrice. Ça donne donc des pages et des pages de dialogue. Tu es sûr ? Tu as bien réfléchi ? Vas-tu vraiment faire ? Ça va, ça va. Laisse-la donc raconter la Russie, les bancs de l'école, le jardin du Luxembourg. Laisse-la raconter ses parents éloignés et son institutrice parce que ces passages sont beaux, doux et réconfortant.
Merci Cécile Coulon. Bah, vous voyez Christine Montalbetti, elle était calme là. Ça allait, ça allait. On l'a connue plus incisive, hein, je vous assure, oui. Avec les textes. Hein.
Juste laisser raconter en fait. Si elle ne faisait que raconter, alors il y aurait quelque chose de conformiste. Et justement, Nathalie Sarraute n'est pas une femme conformiste. Et ce qui l'intéresse, je crois, dans ce dialogue, c'est à la fois la singularité, puisque c'est pas courant de commencer comme ça et de laisser le texte travailler comme ça. Mais c'est aussi qu'au fond, ce qui l'intéresse précisément, plus encore que ce qu'elle a à dire, c'est l'hésitation. Tout ce qui, quand on écrit, est le hors-champ, en fait, du roman. Le temps qu'on passe à s'inquiéter de tel ou tel moment du livre, un problème de structure qu'on se pose, une inquiétude peut-être plus fondamentale qu'on peut éprouver parfois quand on écrit. Ça, c'est des hors-champs du livre. Ça reste dans le silence de l'écriture ou de la non-écriture. Parfois, pour ceux qui écrivent des journaux d'écriture, ça se trouve dans les journaux d'écriture, mais ça se trouve pas dans le texte lui-même. Et vraiment, son désir, je crois, c'est de nous parler de l'incertitude, de l'inquiétude, de l'hésitation.
De la marge, en fait.
Oui, et aussi de tout ce qui est fragile, justement. Tout ce qui est fragile en elle, de tout ce qui est difficile dans Geste d'écrire. Et je crois qu'il y a quelque chose de très salutaire dans cette mise en scène, justement, de l'hésitation et cette dénonciation de la manière dont le langage peut exercer une certaine violence. Parce qu'on entend beaucoup de discours, justement, simplificateurs et qui ne laissent pas d'espace pour penser. Le désir de Sarraute, c'est au contraire de laisser le plus d'espace possible pour penser, à la fois dans sa propre œuvre et aussi au lecteur, dans ses points de suspension qui sont aussi la place pour nous. Hey, it's okay. Look over the fence. There's things over there that I know you don't know about yet. Listen. I'm so defensive, there are things over there that I do not know about. Yeah. I'm so defensive, I get caught up in the modern day, the fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest, and something tells me they don't be for me. Got that long hair, long beard, turtleneck, sweater. You've got short hair, short beard. Nothing feels better than me and you and me and me. I'm so defensive, I got boobies on my booty. I got feelings in my feelings, I got violence on my violence, yeah. I'm so defensive, I got fire in my fire. I got whiskey in my shower, got my dancing feet on play.
Wolf, Grumpy Old Man.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
Gide disait, j'écris dans la folie et je me relis dans la raison. On a une sorte de lecteur idéal qu'on projette quand on relit. Et on se dit, non, ça, ça va pas, c'est confus, ou c'est mauvais, ou c'est plat. Et là, le double est revenu, et de nouveau m'a beaucoup aidée pour préciser ses souvenirs et pour être un peu le côté raisonnable. Le côté qui dit, non, là, tu dois exagérer, essaye de te rappeler.
Nathalie Sarraute, en 1983. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui cause comme un Cosaque, notamment de Enfance de Nathalie Sarraute. Et à mes côtés, dans cette cavalerie, j'ai Cécile Coulon, Liliane Roudière et Élodie Emery. Et en tête, nous avons Christine Montalbetti, armée de sa chashka. Christine Montalbetti, il y a ce double trouvaille génial que Sarraute fait intervenir dans le livre. Ce double qui dit « Allons, fais un effort » ou bien « Tu vas te laisser aller à l'emphase » ou encore « Ne te fâche pas, mais ne crois-tu pas que là, tu as fait un joli petit raccord ?» Bon, mais dans Enfance, ce double, il est sympa. Qu'en serait-il si ce double pétait un plomb ? S'il se déglinguait ? Nous avons donc imaginé, avec notre mauvais esprit, Nathalie Sarraute et son double, devenus une teigne lors d'un premier rendez-vous galant.
Très sympa ce resto, Natalia. Très bon choix. C'est votre quartier ?
Non, non, moi je vis dans l'Est parisien.
Ouais, enfin je vis nulle part, surtout. Je suis une migrante russe, en attente de mes papiers.
Oh, tu vas pas commencer, hein ?
Pardon ?
Je disais, allez-y, commencez. Il a l'air délicieux ce plat du jour.
Et sinon, ça fait longtemps que vous êtes inscrite sur ce site de rencontre ?
Oh non, non, c'est tout récent.
Ça fait 5 ans quand même, hein.
Oh mais ça va, on n'est pas obligé de tout lui dire.
Pardon ?
Je disais, pour tout dire, ça vous va bien les cheveux gris ?
À vous trouver ? Merci. C'est de famille. Mon père les a eu gris au même âge.
Enfin, on dirait un peu Jean-Marc Ayrault jeune quand même.
Oh, punaise, mais c'est pas possible.
Bon, si, si, ah ben... ça va, il y a pire que les cheveux gris dans la vie. En tout cas, vous êtes aussi jolie que sur la photo.
Merci.
À 450 la séance de Botox, merci évidemment qu'on est jolie. Par contre, t'aurais pu penser à faire des racines.
Non mais dis donc, tu sais le temps que ça prend de faire des racines.
Bon, écoutez, ça suffit. Moi, je cherche une relation sérieuse, pas qu'on se paie ma tête. C'est pour la télé, c'est ça ? C'est une caméra cachée ?
Ah mais non, non, c'est pas du tout ça. Comment dire, c'est délicat, c'est pas moi qui parle, c'est elle.
Mais qui ça, elle ?
Ben moi, idiote.
Mais mon alter ego, mon double, mon deuxième moi, si vous préférez.
Ah, vous êtes déjà prise. Sur votre fiche, il y avait écrit célibataire.
Mais quelle quiche, quelle quiche.
Non mais c'est juste qu'on est deux, en fait.
Ah non, 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 désolé, moi, les plans à trois, ça a jamais été mon truc. Salut.
Christine Montalbetti, pardon. Mais on a voulu mettre en scène ce double parce que la littérature donc adore les doubles, hein, Arsène Lupin, Dr Jekyll et Mr Hyde, il y a même Martine et son âne cadichon. Mais le principe du double en soi, c'est quand même effrayant, non ?
C'est vrai. Mais je suis presque étonnée qu'elle l'appelle son double, en fait. Je l'avais déjà entendu dans des interviews parler de double, comme s'il y avait elle et son double. Mais en réalité, moi, j'ai le sentiment, en lisant, que c'est quand même plutôt deux parties d'elle-même, ce qui est pas tout à fait la même chose. Parce que dans le double, ce qui est effrayant, c'est qu'on a l'impression qu'il menace sa propre intégrité, en fait. Ou que c'est comme dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le mauvais, le trouble, disons, et l'autre, qui serait le bon. Or là, je crois qu'il n'y a pas de manichéisme, où il n'y a pas la part bonne et la part mauvaise, où il n'y a pas la part de l'autre et sa part à soi, mais plutôt une contradiction entre deux aspirations, enfin l'aspiration à écrire sa vie et puis la réticence en fait, et aussi la crainte d'écrire une chose convenue ou la crainte d'enjoliver. La crainte de faire son David Copperfield ou son Victor Malo, elle en parle à un moment, la crainte d'enfermer sa propre histoire dans des histoires déjà écrites.
Mais ça voudrait dire donc qu'elle vise la neutralité ?
Non, je dirais plutôt que c'est la justesse en fait, mais c'est une justesse qui est inatteignable. Et c'est beau aussi qu'elle le soit, inatteignable. En tout cas, ces deux voix, elles interrogent des manières de faire. Plus que d'interroger la petite fille et de se dire, voilà, elle était comme si, non, c'est pas vrai, elle était plutôt comme ça. C'est plutôt sur la manière d'écrire, en fait, que la discussion s'engage entre les deux voix.
Cécile Coulon ?
Moi, ce que je trouve intéressant dans ce double, c'est qu'en fait, je suis pas sûre qu'il juge quoi que ce soit. Je pense qu'il est plutôt en mise en garde ou essayer d'aller vers une forme de justesse ou de vérité. Mais en revanche, il ne juge jamais ce qu'elle dit, enfin ce qu'elle écrit ou ce qu'elle va écrire.
Oui, c'est vrai.
De la manière.
Il traque la facilité. Il s'inquiète.
Oui, c'est vrai.
Au début, il s'inquiète quand même du projet. Mais oui, oui.
C'est ça. Alors, on a parlé du double. Il y a d'autres personnages secondaires hein, dans le texte. Même si le personnage principal, ils sont plusieurs à l'intérieur, en quelque sorte. Mais c'est pourtant la tâche qui incombe à Liliane Roudière, c'est mettre en lumière un personnage secondaire de enfance de Nathalie Sarraute. Un personnage qu'on a oublié et qui pourtant est fondamental.
J'ai choisi Vera, personnage secondaire et pourtant essentiel. Vera est la belle-mère de Natacha. C'est la nouvelle femme de son père, la marâtre. Et d'emblée, cette place n'a pas bonne réputation. De la belle-mère de Cendrillon à Laetitia Hallyday, la pièce rapportée a toujours le mauvais rôle. La preuve, Vera est bête. Ce sont les premiers mots qu'entend Natacha à propos de Vera. C'est sa mère qui lui glisse ça en loose-dé sur un quai de gare au moment où elle l'abandonne. Super cadeau. L'enfant a 8 ans, elle s'imagine alors que Vera porte un bonnet d'âne invisible. Alors que Vera est une très jeune femme, déracinée, qui doit porter sur ses fines épaules un nouveau mari, pas très funky, l'arrivée d'une belle fille et la naissance de son bébé. Il me paraît justifié qu'elle mette une certaine distance entre Natacha et elle. J'appellerais ça prendre son temps. Alors évidemment, Vera est maladroite. Elle prend la chambre de Natacha pour la donner à Lily, la nouvelle petite sœur, et elle lui dit « ce n'est pas ta maison ». Mais tout le monde est responsable, le père, la belle-mère et l'immonde mère. D'ailleurs, Natacha confirme que Vera n'a jamais été méchante, ne s'est jamais mise en colère contre elle. Résultat, un lien invisible se crée jour après jour entre la belle-mère et l'enfant. Un soir, Natacha surprend Vera qui sanglote dans son lit, je cite « j'essuie son visage, je caresse sa tête ». Soyeuse et douce, elle sort une main, la pose sur la mienne, elle serre mes doigts. On dirait deux sœurs de détresse. Écoutez leurs éclats de rire complices quand elles apprennent à faire du vélo dans la forêt. L'enfant dit alors « Je sens chez Vera ce que je n'ai jamais senti avant. Oui, un attachement, de l'affection. Sûrement cela devait être là depuis longtemps. » « Bah oui, Natacha, mais ta mère avec ce Vera est bête, t'avais cousu les yeux. Cette mère qui se fout de toi comme de son premier samovar. » Alors, tu as bien fait en tant qu'enfant de choisir Vera. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut choisir sa mère.
Merci Liliane Roudière. Christine Montalbetti, est-ce que vous êtes d'accord avec cette remise à l'honneur de Vera ?
Je pense que la narratrice elle-même a un rapport comme ça très... Enfin, qu'elle la sauve aussi dans le récit. Ce qui est intéressant aussi, et qui peut expliquer aussi toute cette, justement la présence de ce double et cette inquiétude à propos du geste autobiographique, c'est que Sarraute, comme d'autres auteurs du nouveau roman, s'est vraiment opposée à la notion de personnage, justement. Et que dans ce qu'elle travaille dans tous les autres textes, ce sont les sentiments, les émotions, les contradictions, les tropismes, mais pas des personnages. Et quand elle s'est mise à écrire du théâtre, enfin la première fois c'était une commande, donc c'était pas un geste spontané, année, elle dit qu'elle ne se représentait rien quand elle écrivait et que quand elle assistait aux répétitions, ça la gênait presque, l'incarnation, le costume. Or là, mais il y a des personnages puisqu'ils ont existé, il y a des incarnations, elle les voit avant d'écrire. Et d'ailleurs, Vera, quand elle apparaît, met un costume du père, donc elle se déguise en plus. Elle est quasiment comme une figure d'acteur ou d'actrice. Donc là aussi, c'est une spécificité dans l'œuvre de Sarraute, c'est que c'est un récit dans lequel on peut parler des personnages, ce qui n'est pas le cas des autres récits.
Mais dans le passage qu'a cité Liliane, ce qui me frappe, moi, c'est qu'on a l'impression que Nathalie Sarraute, enfant, est plus adulte que Vera, qui est pourtant sa belle-mère. Et à beaucoup d'autres passages, elle l'observe avec une acuité, finalement, qui n'est pas du tout de son âge. En fait, elle est beaucoup plus mûre que Vera. Vous avez ressenti ça aussi ?
C'est vrai qu'il y a une acuité dans le regard et qu'il y a aussi une compréhension de la complexité des sentiments qui est très forte. Je crois qu'on, du coup, on sent aussi comment elle se construit et comment elle se construit aussi dans son rapport à venir à l'écriture, qui passe par ce regard très attentif, par cette...
Je trouve qu'elle a l'acuité un peu des animaux effrayés, c'est-à-dire qu'elle sait comment à peu près se conduire avec Vera aussi... sa mère aussi qui l'a couvert d'amour, qui fait des chantages à l'amour en permanence alors qu'elle l'a trahi tout le temps. Et je pense que ça aide à mûrir très très vite. Et puis il y a aussi ce passé d'exilé, de déraciné.
Oui, il y a ça chez Vera, en effet. Il y a tout un paysage un peu sociologique que Nathalie Sarraute dessine peut-être même malgré elle, mais qui sont ces Russes exilés en France. Vera elle-même est russe d'ailleurs. Donc il y a aussi tout un écosystème en fait de déraciné. Ça c'est très présent chez Nathalie Sarraute.
Oui, il y a vraiment une tension entre ces deux espaces, entre les différents espaces russes et Paris, ce 5e arrondissement et après ce 14e arrondissement, et cet espace russe qui est aussi pour nous un espace presque un espace romanesque. Enfin, il y a des stalactites qui tombent d'un toit d'une maison en bois. Il y a tout cet espace qu'elle nous décrit qui pour nous participe des romans russes, qui est presque un espace exotique. Puis l'espace de Paris, moi ça me touche un peu parce qu'en fait le jardin du Luxembourg, c'est un endroit où moi j'allais jouer petite, je vois très bien le bassin dont elle parle, le manège, tout ça, c'est des espaces que je connais, la rue Berthollet, la rue Flatters où habitait la mère, et qui est en fait une rue qui accueillait beaucoup de réfugiés russes à ce moment-là, et aussi dans laquelle on a retrouvé des membres d'Action Directe d'ailleurs. Donc moi, c'est un espace qui, une rue qui me frappait beaucoup quand j'y allais, avant même de savoir que la mère de Sarraute y avait habité. Donc voilà, il y a toute une topographie comme ça qui peut être familière pour ceux qui ont habité dans cet endroit. Et puis, les espaces russes. Et aussi, c'est curieux parce qu'elle ne le formule jamais dans le livre, mais le fait qu'elle est séparée aussi d'un des parents par un espace considérable. Ça, elle ne le dit pas. Je pense que dans la séparation, c'est aussi quelque chose qui doit la travailler. C'est-à-dire que...
Vous voulez dire l'espace géographique?
Oui, voilà, que la distance est considérable.
Ah bah c'est sûr, sa mère n'est pas à Melun, elle est à Saint-Pétersbourg. C'est pas...
J'imagine que c'est...
En TER, voilà, c'est compliqué.
J'imagine que c'est quelque chose qui est très troublant, le fait que les parents soient aussi dans une telle distance géographique.
Il y a l'idée du grand écart, hein, et finalement qu'elle comble avec l'intervention de ce double, où il y a comme une espèce de... Ça ressoude en fait un être, hein, c'est une unité en fait qu'elle recrée.
Mais peut-être qu'au fond, c'est aussi un accompagnement, c'est-à-dire qu'elle est, elle est pas seule dans cette affaire.
Plus les années défilent, moins je comprends les choses, moins je trouve les réponses aux questions qui se posent. Le temps m'a alourdi, et puis fane les roses. Des pensées qu'on croit sûres et d'autres s'y opposent. Alors je viens poser sur la tienne ma bouche. C'est la seule vérité, nos lèvres qui se touchent. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille. J'alambique les nuages, dévêtus par la foudre. Surtout ne pas mourir sans la fièvre du jour. Les couchers sur la mer à ravir la mort. Nous moquer bien des limbes et des longs puits sans fond. Car les dieux et l'Olympe n'auront jamais raison. Ils nous envient l'effroi de connaître le temps, de n'avoir qu'une seule fois pour nous rendre vivants. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique. Dévêtu par la foudre. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtu par la foudre. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre. Les fleurs se panent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je
Dup, même s'il y a eu débat pendant le disque pour savoir si on disait Team Dup ou Team Dup. Bon bah c'est Team quoi, d'alcool et de paysages.
France Inter. Livre et châtiment.
J'essayais de retrouver ce que je ressentais. À certains moments plus intenses, et je n'ai montré que ces moments-là, qui sont restés plus intenses que d'autres.
Nathalie Sarraute, en 1989, vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui réunit sa Douma pour désapprouver les classiques littéraires. En Russie, elle s'est finie en échec. Et, puisqu'on parle de fin, je vous lis celle d'enfance qui se termine avec des points de suspension, ces arabesques d'écriture. Je cite, « Je ne pourrais plus m'efforcer de faire surgir quelques moments, quelques mouvements qui me semblent encore intacts, assez forts pour se dégager de cette couche protectrice qui les conserve, de ces épaisseurs blanchâtres, molles, ouatées, qui se défont, qui disparaissent avec l'enfance. Trois petits points que moi j'aime tellement. » Cette fin, bien sûr, elle est un peu abrupte au niveau du récit, mais elle s'explique puisqu'avec la fin de l'enfance vient la fin des confidences et avec elle la fin du livre. Mais nous vous proposons néanmoins, chers auditeurs, de réécrire cette non-fin en quelque sorte. Alors évidemment, nous sommes à Livre et Châtiment, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mettez par terre les règles du roman comme ils ont fait au nouveau roman. Vous pouvez imaginer que la narratrice se noie dans un silence, au sens littéral, qu'elle tacle son double, ou bien que son double devient un peu agressif. Tout est permis du moment que ça tient en 5 lignes maximum et que vous l'envoyez avant demain, lundi 16h, à l'adresse suivante, livre-et-châtiment@radiofrance.com, au singulier tout attaché, et la meilleure fin sera lue à l'antenne dimanche prochain. La semaine dernière, vous deviez réécrire la fin de Tristan et Iseut, issue tragique débouchant sur la mort des deux amants. Les fins que vous avez trouvées, que vous nous avez envoyées, sont dans l'ensemble beaucoup plus gaies et justicières que celles du mythe de Tristan et Iseut. Et pour ça, merci. Il a bien fallu en choisir une. Et c'est Cécile qui nous lit celle que nous avons jugée la meilleure. Cécile, l'auteur de la meilleure fin, est...
L'auteur de la meilleure fin est Gabriel. Alors Gabriel, je
bravo,
resitue.
On dit d'abord bravo.
Bravo Gabriel.
Bravo Gabriel.
Gabriel, c'est un garçon. Et c'est l'élève de Madame Ariane Mounis, enseignante au collège Georges Braque de Dieppe. Plusieurs élèves de cette classe ont envoyé des fins pour Tristan et Iseut. Donc on a gardé celle de Gabriel. Je vous la lis. Amant, aimé, ce précepte était pour vous et il le sera toujours. Ce conte est un alcyon, entendu pour vous insuffler sans même que vous le sachiez les usages de l'amour. Je vous implore là, sûrement à vous, à la lumière d'une flamme, à vous, adultère de l'amour, compère du diable. Je ne vous plains point car vous êtes de ceux qui, de tous les mots d'amour, ont connu les sincères. Il vaut mieux aimer qu'être aimé. Et je m'incline totalement, c'est vraiment... Très beau.
En quatrième, on a 13 ans.
Il faut qu'il continue à écrire.
Voilà, et sa professeure a enseigné. Parce que ça, ce sont des élèves qui ont été merveilleusement formés à cette langue et à l'écriture. Non, Cécile Coulon?
Non, et puis plus tard, sur Tinder, il va faire des ravages, quoi.
Vraiment. Voilà. Ça, c'est une vraie
mot-action.
Voilà.
C'est important.
Pour l'avenir, bon courage, Gabriel, et merci d'avoir participé. Oui. En tout cas, bravo à cette professeure qui a fait du super boulot. On passe à nos tsars, nos empereurs, nos souverains sacrés, les professeurs, bien sûr, mais aussi les libraires. En partenariat avec la revue Page des libraires, ils nous racontent chaque semaine la question la plus farfelue entendue dans leur boutique. Et cette semaine, nous avons en ligne Salomé Fauvel de la librairie Le Tramway, située à côté des Halles Bocuse à Lyon. Il y a 4 sapins dans sa vitrine, je le sais. Et il y a même un calendrier de l'Avent spécial livre. Salomé, vrai ou faux ?
C'est tout à fait vrai. Bonjour.
Bonjour Salomé. Alors, quelle est la question la plus farfelue entendue dans votre boutique ?
Oui, alors ça c'était très mignon. Un monsieur, son petit-fils, lui avait demandé des BD, donc il va voir ma collègue, il regarde et puis il revient vers nous et il nous dit « Oui, votre collègue m'a bien montré les Astérix, mais par contre je trouve pas les Obélix. »
Oh, c'est tellement mignon.
On y croit à peine.
Oh, c'est tellement mignon. Attendez, moi, celle qui vous parle à ce micro-là est entrée dans une librairie et elle a demandé d'abord le rouge et ensuite quand j'aurai terminé, je lirai le noir. Ok, donc à partir de la fin du game, ok, au niveau de l'ignardise, fin du game. On vous embrasse, Salomé.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. Merci Christine Montalbetti de nous avoir accompagnés dans cette enfance française et russe, malgré nos orteils froids, mais notre cœur chaud. Je rappelle que votre livre, Ce que c'est qu'une existence, est paru chez POL. Merci à la camarade Emery, à la camarade Roudière, à la camarade Coulon. Merci à notre talentueux Colcos, Stéphanie Texier à la réalisation, Fanny Leroy en chargée de programme et à la technique, la conductrice de traîneau, Johanna Gabric, non russe. Bonne semaine et n'oubliez pas, chers auditeurs, comme disait Sarraute, c'est ce qui échappe aux mots que les mots doivent dire. Alors je me tais et je vous embrasse.